D'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa Nummer 1.
This is Europe number 1.
À cette heure-ci, Maurice Sugel, je me retrouve au même endroit où j'étais hier soir, c'est-à-dire à environ 50 mètres de la barricade principale, au coin de la rue Pasteur et du boulevard La Ferrière.
Le jour de la fête à
Ça va, mec?
Oui. Tout le monde sont là?
Bah oui, on te regarde.
Ça me paraît comment c'est mou, votre émission.
Oh là là! Oh, cette droite terrible de Monzon!
Ouais!
Les pompiers sont descendus avec une corde pour vérifier si personne n'était tombé au fond du trou. Il n'y avait personne. L'éboulement s'est produit pendant la nuit.
Mais dites-moi, de qui la mise en ombre?
Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons.
Ah, bon, signé Pierre Dac et Francis Blanche.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous, heureux de me trouver en votre compagnie, de vous retrouver autour des enfants d'Europe 1 chaque dimanche après-midi entre 16h et 17h. L'horaire a changé mais pas l'esprit de l'émission. En ce dimanche 16 septembre, nous allons parler d'une grande dame, nous allons parler de la Calas. Pourquoi ? D'abord parce qu'on célèbre un anniversaire et qu'il est bien de rendre hommage au talent. Ensuite parce qu'avec toute l'équipe des enfants d'Europe 1, nous avons retrouvé des interviews, des reportages dont il aurait été dommage de ne pas vous faire profiter. Et puis j'ai envie d'ajouter une dernière raison. Maria Callas va nous permettre de retrouver, et j'en suis heureux, un autre enfant d'Europe 1, aujourd'hui directeur de la chaîne musicale classique et jazz, la chaîne Mezzo, et qui en d'autres temps fut le concepteur et présentateur sur cette antenne d'une émission originale sur la musique classique. Souvenez-vous.
Les classiques de demain. Philippe Delacroix.
Bonjour, bonne journée à toutes et à tous. Bon début de vacances pour les uns, bon retour pour les autres. Et si vous êtes étonné de retrouver les classiques de demain à 7h06, sachez qu'il en sera de même pendant tout le mois d'août. Pour ouvrir ce programme, une exclusivité des classiques de demain sur Europe 1. La rencontre entre un quatuor vocal, tout ce qu'il y a de plus classique, et d'un saxophoniste beaucoup plus versé dans le jazz, lui. L'ensemble vocal, c'est le très britannique Iliard Ensemble. Le saxophoniste, c'est le norvégien Jan Garbarek. Et ensemble, ils ont tenté une expérience, celle de chanter la musique des siècles passés avec des improvisations au saxophone. Le résultat est à proprement parler stupéfiant, car a priori, le mélange des genres, c'est toujours un peu artificiel. Ça produit des résultats hybrides, du genre cautère sur une jambe de bois, on pourrait presque dire ça. Alors là, franchement, c'est tout le contraire, c'est d'osmose qu'il faut parler, parce que vraiment, ça fonctionne à merveille. Vous allez d'ailleurs pouvoir juger par vous-même, c'est une exclusivité, puisque le disque ne sort que mi-septembre, mais je l'ai dégoté pour vous. Alors croyez-moi, faites l'expérience une fois encore avec cette musique, vous allez voir que ceux qui vous entourent, avec une musique pareille, avec les yeux que vous avez et les oreilles que vous avez, eh bien ce panorama autour de vous va complètement changer, cet univers va changer, l'expérience commence juste maintenant. Ça s'appelle Officium, le Iliard Ensemble et Jan Garbarek.
Salut Philippe.
On en a découvert. Alors là, je dois dire que je suis bluffé et super content, parce que ça fait évidemment 11 ans que j'ai pas entendu ça, puisque je suis parti il y a 11 ans de cette station. Et j'avais été jusqu'à oublier le générique. Quand il y a quelques jours, tu m'as dit, viens faire l'émission sur Calas, j'étais fondamentalement vexé que ma mémoire me trahisse à ce point, j'avais oublié le générique. Ouais. Et ça me fait super plaisir, merci.
On en a découvert des artistes d'aujourd'hui avec toi. Jan Garbarek, on l'entend en ce moment. Arvo Pärt, Frédéric Mompou, des artistes méconnus hier, aujourd'hui confirmés. Juste pour dire, Philippe, que le classique peut appartenir aussi bien au passé qu'au présent et peut-être à l'avenir.
C'est parce qu'il n'a pas de mode. La musique classique a ça, à la différence des musiques de mode qu'on entend toute la journée, les modes elles passent, la musique classique elle reste classique, c'est-à-dire que la musique classique elle s'invente aussi aujourd'hui. On invente aujourd'hui de la musique qui sera classique demain, bien sûr. D'ailleurs c'était le titre de l'émission, c'est bien placé, hein, j'ai bien placé. Mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est ça la différence. C'est ça la différence. Pourquoi les choses des années 70, par exemple en architecture, une chose qui me frappe, je vois des bâtiments dans Paris qui sont années 70, je me dis, c'est atrocement vieilli, et je vois des immeubles haussmanniens qui datent de 100 ans plus tôt, et qui n'ont pas vraiment une ride et dans lesquelles tout le monde souhaite habiter. C'est ça qui est formidable. La musique classique, c'est la même chose. Ça n'a pas d'époque, ça appartient à toutes les époques. Bach, qui a 350 ans aujourd'hui, eh ben, il est plus moderne que beaucoup de musiciens d'aujourd'hui.
Mmh. C'est une manie peut-être de vouloir arrêter le temps à chaque fois qu'on pense avoir touché au génie, comme si on ne pouvait pas aller plus loin. Mais c'est vrai que parfois on se trouve tellement dans l'excellence, tellement loin dans l'excellence, qu'on peut se poser la question. Pour Maria Callas, on peut se poser la question, par exemple.
Non, il y a des personnalités qui vont au-delà du temps, c'est la même chose pour le talent. Le talent, d'abord, c'est une évidence. Le talent, le génie, j'ai envie de dire, ça s'impose comme une évidence, y compris pour ceux qui connaissent rien du tout au domaine. C'est-à-dire qu'on peut... Moi, j'ai vu des gens dans des musées qui sont pas du tout des experts en peinture. Ça fait deux fois que je parle de peinture, parce que j'adore la peinture, l'architecture.
Mais ça va bien avec la musique.
Évidemment. Hein. Et... Le génie, c'est une évidence, ça vous saute à la figure, pour rester très correct. La musique, c'est la même chose. Quand une œuvre est géniale, elle saute aux oreilles de tous ceux qui l'entendent. Et quand une voix, parce que la voix, c'est le premier instrument de l'homme, c'est le plus bel instrument, si je veux dire, de la création, eh bien, ça, c'est encore plus fort. On a enterré, il y a peu de temps, Pavarotti. On a enterré un musicien qui avait l'instrument le plus proche de la voix, à savoir le violoncelle, avec Rostropovitch. Mmh. Et là, on célèbre les 30 ans de la disparition d'une des voix les plus extraordinaires du XXe siècle, la voix de Maria Callas. C'est une vibration, la voix, comme la musique.
On va reparler, parce que vous l'avez compris, on va consacrer cette émission à celle qu'on a fini par appeler la Callas. C'est dire qu'on va se faire plaisir, revivre avec elle.
Ça, c'est une manière
elle.
De me dire que je suis bavard. Ouais.
Non, mais j'espère bien, parce que j'ai envie d'apprendre des tas de choses. J'en ai déjà appris une ou deux là. Elle vient de quel milieu, Maria Callas?
Un milieu simple de Grec immigré à New York. Elle est née à New York. Et son père est pharmacien. Et il faut savoir que la communauté new-yorkaise grecque, on la voit encore aujourd'hui dans certains quartiers du Queens et tout ça, dans des quartiers un peu périphériques de New York. C'est une communauté qui a jamais vraiment roulé sur l'or. Et ben c'était le cas pour la famille de Maria Callas.
Sa vraie patrie, elle est outre-Atlantique ou elle est en Grèce? Parce que il y a un truc, qui est quand même effarant, c'est qu'il y a pas de musique Callas en Grèce. On n'a pas l'impression qu'elle fasse partie de leur patrimoine.
Mais parce
Grecs.
Que tu mets le doigt, je crois, sur le problème fondamental de la Callas. C'est pas savoir qui elle est, d'où elle vient, de ce qu'elle fait. Elle sait un jour d'où elle vient. Quand elle est en Grèce, elle rêve d'être à New York. Quand elle est à New York, elle veut partir en Grèce. Et finalement, elle termine à Paris après avoir passé de longues années en Italie. Excusez du peu, c'est compliqué quand même de s'y retrouver. Elle, tout le problème de sa vie, de sa courte vie devrais-je dire, c'est un problème de malaise. Malaise vis-à-vis de tout. Et l'appartenance qui est à question, c'est exactement ça. D'où elle est, moi j'en sais rien du tout, figure-toi.
Le père est pharmacien, effectivement. La mère de Maria Callas va quitter son mari, peut-être parce qu'il est pas
lui,
trop modeste.
Il s'en donne à cœur joie,
et elle, oui. Bon. et sa mère, elle va décider de prendre la destinée de sa fille en main. Parce qu'elle a l'impression d'avoir une surdouée, c'est ça?
Oui, c'est un peu le problème des parents. C'est-à-dire que les parents, quand ils sentent que les enfants ont du talent, ils se disent, peut-être voulait-elle chanter, je vais pas faire de la psychanalyse, j'en sais rien du tout. D'ailleurs, je ne le sais pas si la mère voulait chanter, donc elle a fait un transfert sur sa fille. Mais une chose est sûre, c'est que ce milieu est modeste. Et quand elle va partir à la fin des années 30, donc c'est pendant juste au début de la guerre, en Grèce, elle va même changer de nom. Elle va reprendre son nom initial qui est Kalogeropoulos, qui est le nom d'origine qui était devenu Callas en arrivant aux États-Unis. Les gens changeaient de nom aux États-Unis quand ils arrivaient à l'époque. Donc là, après, elle va se séparer de son père. Mais c'est vrai que c'est difficile de répondre exactement à ta question.
Alors, je m'adresse aux auditeurs, mais écoutez avec attention ce qui va suivre, parce que le témoignage est très émouvant. Extrait de l'émission Histoire de Star, que présentait l'inoubliable Jean-Claude Brialy sur cette antenne. Témoignage de celle qui fut la pianiste et l'amie la plus proche de Maria Callas, Vaso De Vezzi. Récit de leur première rencontre en 1943.
Maria, à l'époque, chante dans les chœurs de l'Opéra d'Athènes. Elle n'est pas soliste. En 1943, l'Opéra d'Athènes fait une tournée à Salonique. Et une soprano tombe malade. Et le soir, le directeur du théâtre décide qu'elle doit la remplacer. Et c'est comme ça que je rencontre Maria. Maria chante. J'écoute une voix où je commence à trembler. Je n'ai pas perdu ce souvenir jusqu'à aujourd'hui. Et ça se passe en 1943. Et je me rappelle très bien l'émotion que cette voix, tout à fait inconnue d'ailleurs, a provoquée auprès du public de Salonique. Il est clair que devant un tel phénomène vocal qu'on a entendu ce soir-là, le lendemain, Maria se trouve encore plus loin dans les chœurs pour qu'elle puisse pas avoir une chance de rechanter en soliste. Alors Maria redevient choriste.
Prêtez vos parts de Séville chez mon ami Laspasca. J'irai danser dans Séville et boire de Manzanilla. J'irai chez mon ami Laspasca. Oui, mais tout cela s'ennuie et les vrais plaisirs sont à deux. Donc pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amoureux. Mon amoureux, il est audible. Je l'ai mis à la porte hier, mon pauvre très, très consolable. Mon cœur est libre comme l'air. J'ai des galants à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré. Voici la fin de la semaine qui me m'aimé. Je l'aimerais. Qui veut mon amour, elle est à prendre. Vous arrivez au bon moment. Je n'ai guère le temps d'attendre, car avec mon nouvel amant, prêtez ma part de Séville. J'ai
On a entendu, Philippe, le témoignage de cette pianiste qui a été l'amie de Maria Callas. Une question comme ça du béotien que je suis en la matière, ça se passe comme ça dans les orchestres et dans les chœurs, la jalousie qui fait qu'une artiste, Maria Callas en l'occurrence, on va essayer, j'allais dire, de la faire taire, mais pas la faire entendre, quoi.
C'est-à-dire que un orchestre, un groupe, un plateau, un opéra, c'est comme n'importe quelle société au microcosme ou macrocosme quand il s'agit d'un orchestre avec un chœur, parce qu'il y a au moins 200 personnes, mais c'est déjà plus un microcosme. Mais c'est toujours pareil. Bien sûr que oui. C'est à qui se montrera le plus. Et donc, qui torpillera l'autre? Et en général, les demi-talents détestent les grands talents. Donc forcément, tous les croche-pattes sont autorisés. Et c'est vrai encore aujourd'hui.
On a parlé, alors est-ce que c'est de l'outrance, est-ce que c'est une réalité, on a parlé de phénomène vocal. En quoi est-ce que Maria Callas est un phénomène vocal?
Bah, il suffit d'avoir écouté avec attention ce qu'on a entendu juste avant, c'est-à-dire Carmen. D'abord Carmen, a priori, ça n'a pas toujours été le cas, mais enfin bon, il suffit d'écouter la largeur de cette voix incroyable. A priori, aujourd'hui, Carmen est chantée par une mezzo, c'est-à-dire une voix grave. Mais elle a une voix de soprane, a priori.
Tu nous rappelles légère, c'est-à-dire que l'échelle.
Grave, c'est l'équivalent d'une voix. Parfois à la radio, si vous entendez une mezzo, vous pouvez penser que c'est presque un homme qui a une voix légère qui parle, c'est-à-dire un registre médium grave. Soprane, c'est beaucoup plus haut. Après, il y a le soprano léger, puis il y a aussi la soprano coloratour, des petites voix comme de ces extraordinairement puissantes, extraordinairement au perché. Elle a une voix, elle, qui fait une largeur, qui est capable vraiment de chanter un répertoire extrêmement large, parce que elle pouvait chanter, elle l'a fait d'ailleurs, des répertoires aussi bien de mezzo que de soprano.
Donc phénomène vocal, le phénomène vocal, c'est de l'acquis, c'est de l'inné, c'est un don qui se
travaille. C'est forcément un don au départ, avec beaucoup de travail. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, Callas, parce qu'un artiste, il doit travailler beaucoup. Et une voix, c'est très fragile, alors travailler beaucoup, sans excès, dans un corps qui se porte bien et dans une tête qui fonctionne bien. Parce que pour un chanteur, c'est pas comme un instrumentiste. Un instrumentiste, il a entre le public et lui un instrument pour se protéger. Un chanteur, il est, permets-moi l'expression, à poil devant le public. C'est le métier le plus difficile dans le domaine du classique et dans le domaine lyrique, bien sûr, mais dans le classique qui englobe l'opéra, c'est le boulot le plus difficile. C'est se foutre à poil tous les soirs devant un public. Et c'est pour ça que tous les chanteurs, sans exception, ont vraiment souvent des problèmes existentiels, je pèse mes mots.
Tous ceux qui sont devenus les célébrités qu'on connaît, ils ont tous travaillé. Je veux dire, on parlait de Pavarotti tout à l'heure, on parlait de Caruso.
Bien sûr. On parle d'Alania, on parle de C, etc. Ce sont des gens qui bossent. Moi, la jeune génération, ou les gens de 40 ans aujourd'hui, je les côtoie depuis plus de 20 ans. Mais ce sont des gens qui travaillent tout le temps. Ce sont des gens qui se ménagent. Ce sont pas des gens comme ça dont ça tombe du ciel. Le don, c'est un don du ciel, d'accord. Mais après, si vous n'en faites rien, bah vous n'en ferez rien du tout. Sachez-le. Vous chanterez une fois bien, un dimanche avec les copains autour d'une table, et puis c'est tout. C'est du boulot quotidien.
La voix de la Callas, qu'elle décrivait comme une voix capricieuse, rebelle parfois, écoutée d'ailleurs, sa façon d'en parler, sur l'antenne d'Europe numéro 1 en mai 63, comme si elle parlait d'un animal impossible à apprivoiser.
Tu as une voix qui est d'une étendue faramineuse, on n'en connaît pas les limites.
Eh oui, mais Michel, quand on ouvre la bouche, on ne sait jamais ce qu'il sort. Même si tu as étudié, après 25 ans de carrière comme moi, tu le connais bien, on ne sait jamais. Alors on ne peut pas être sûr. Ça non. Tout de suite, ça te ruine la morale, non?
Justement, mais est-ce que ta voix, je voulais te demander, si ta voix était de toujours assez rebelle ou toujours très docile?
Non, elle était toujours rebelle.
Ça veut dire qu'elle avait des difficultés?
Bien, pas toujours. Elle va à journée aussi. Il y a des fois qu'elle a besoin de monter, de jouer, de faire ce qu'elle veut. Et ces jours-là, par hasard, je dois chanter une opéra dramatique, alors il faut que je la domine, enfin, la faire faire ce que je veux, ou ce que je dois vraiment. Et alors, c'est difficile.
Alors justement, quand il se trouve que tu as à chanter des rôles légers et que la voix est dramatique, et que c'est difficile de monter, il se passe de temps en temps, comme toute mécanique humaine, quelque chose qui ne va pas.
Les voix ces humaines... choses-là, tu vois, le public ne peut pas les comprendre. Et si c'est un bon public, il peut le comprendre ou respecter l'artiste. Si c'est un public qui vient pour la performance, alors on s'en fiche pas mal, et alors on te traite mal, et voilà que l'artiste souffre et terriblement.
Et c'est ce qui se passe quand les journalistes à Sensation s'amusent, par exemple, à dire « Oh, Madame Callas a fait une note affreuse à cet endroit. »
Michel, il faut toujours comprendre que c'est un instrument humain. Même les machines, des fois, ils se cassent. Même le piano, un pianiste, il se trompe de note. Et on ne le gifle pas pour une note ou deux qu'il se trompe. Non?
Exactement.
Mais le chanteur est très exposé, bien sûr. Et alors, il y a le divisme, il y a le journalisme. Et c'est malheureusement qu'on ne pardonne rien. Surtout quand on est célèbre, comme moi, que grâce à Dieu, mais enfin... Comme toutes les choses jolies, il y a toujours le couteau à double
tranchant.
Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, l'interview menée par Michel Glotz, une des grandes mémoires musicales du siècle dernier, à l'époque, ami des plus grands, Poulenc, Carian et Callas.
Et Philippe, agent. Et agent, surtout.
Et agent. Ouais, il le sera par la suite, parce que c'est postérieur à ce qu'on vient d'entendre. Même quand elle parle, la Callas, sa voix chante. C'est extraordinaire, ça.
Ça, c'est ce qu'on appelle avoir une voix posée, c'est-à-dire que la voix que l'on a, toi ou moi, quand on parle au micro, n'est pas exactement la voix que l'on a quand on parle dans la rue. Pourquoi? Tout simplement parce que devant un micro, on pose. Eh bien, apprendre à chanter, c'est la même chose, c'est-à-dire apprendre à poser sa voix. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'excès, on est beaucoup dans le haut de la voix pour compenser ou pour se donner de l'énergie. Quand on attaque une émission, on y va fort, on monte la voix comme ça, tu vois, hop. Là, là, je la redescends tranquillement parce que je suis bien installé avec toi dans ce studio.
C'est ça,
le travail de la voix, c'est ça. Et ce qu'elle dit, Callas, c'est formidable, c'est un document formidable parce que elle explique à quel point c'est une mécanique, on peut la bosser, mais parfois, bah voilà, crac, ça marche pas.
Les enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
Retour dans le studio des Enfants d'Europe 1 avec pour évoquer cette immense artiste qui était Maria Callas, pour évoquer sa mémoire, le directeur de la chaîne de musique classique et de jazz, la chaîne Mezzo, j'ai nommé Philippe Delacroix. Philippe, elle commence véritablement à être reconnue à quel moment? Je disais tout à l'heure en Italie, les arènes à Vérone, c'est pas en Grèce en tous les cas.
Non, c'est pas en Grèce, parce qu'encore une fois, ce qui est un paradoxe avec cette femme-là, elle est jamais reconnue là où elle veut. La première fois qu'elle doit chanter à New York, elle s'engueule ou quasiment, même très fortement avec le directeur, elle fiche le camp. À chaque fois qu'elle veut chanter chez elle, les Allemands occupent le pays, elle chante. Alors après, elle se dit, je peux plus chanter en Grèce, elle y reviendra que beaucoup plus tard, c'est en 43, ça. Donc elle s'en va, elle retourne à New York, ensuite elle revient en Italie avec son mari Meneghini, donc quand elle va se marier un peu plus tard dans les années 50. Alors là, c'est quand même la consécration.
Et les grandes années précisément, Callas, elle fait sa connaissance à Vérone.
C'est à Vérone sans doute, oui. Mais attends, c'est plus que moi parce que j'ai pas révisé exactement ce point-là. Mais en l'occurrence, ce qui est impressionnant sur l'époque italienne de Callas, c'est que, comme tu le dis, c'est vraiment là où elle va démarrer, parce qu'elle va y passer un long moment. Elle va être une interprète du répertoire italien, parenthèse ouverte et vitre fermée, extraordinaire. Hein, c'est une Norma inoubliable. C'est vraiment quelqu'un qui a à ce moment-là. Qui va exactement triompher. Mais c'est aussi, curieusement, évidemment, le début de l'ascension, c'est aussi le début de son chemin de croix, hein, parce que ça va pas durer très longtemps.
On parlait tout à l'heure de Milan, de la Scala de Milan. Ça semble être à la fois un port d'attache et puis peut-être aussi un endroit où elle n'a pas eu de très très bons souvenirs.
La Scala, c'est vraiment la Scala. C'est-à-dire que c'est un endroit formidable où il y a un public extraordinaire, mais où le public, quand il a quelqu'un dans le nez, il lui dit violemment, et ça fait presque partie du jeu maintenant. Il n'y a pas une grande voix dans l'histoire de l'opéra, l'histoire enregistrée. Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire de l'opéra d'ailleurs? Parenthèse. On a 100 ans d'enregistrement. Et pour cause, puisqu'avant, il n'y a pas d'enregistrement. Donc avant, on écrivait sur les voix, on les entendait pas. On peut les entendre depuis 100 ans. Depuis 100 ans, tous les grands chanteurs se sont fait mettre dehors par le public de la Scala. C'est arrivé aussi à Calas. On a beaucoup glosé sur l'épisode Alagna en décembre dernier, quand le public a décidé au deuxième acte de le sortir à la 3e ou 4e représentation, sans que ça soit exactement justifié. J'ai vu tout l'enregistrement, c'est exactement ce qui s'est passé pour Calas. C'était en 61, c'était quasiment au même moment, c'est-à-dire à la mi-décembre, et elle est partie, elle chantait « Ah, cruel », et à ce moment-là, les gens se sont mis à hurler. Elle a dit « Oui, vraiment, vous êtes trop cruel ». Elle a fait son sac, elle est sortie de
scène. Ils avaient des raisons de siffler?
D'abord, un, je n'y étais pas. Deux, je n'ai pas l'enregistrement. Trois, c'est toujours insupportable qu'un public sorte un artiste, parce que ce n'est pas reconnaître le droit à l'erreur. Comme elle le disait dans l'interview précédente qu'on entendait, là, ce document formidable, est-ce qu'on peut reprocher à un chanteur de faire une fausse note? Mais bien sûr, ouais. C'est une ânerie. Ce sont des cabales. La cabale, c'est typique de ce qui se passe dans les grandes maisons d'opéra, et singulièrement une maison comme la Scala. Ça s'est produit pour Pavarotti donc personne n'y échappe. Si j'ose dire, ça fait partie du passage obligé. Mais il faut bien chanter à la Scala, et elle a triomphé aussi à la Scala.
Alors tu disais tout à l'heure, ne jamais oublier que c'est une très 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 grande chanteuse, mais c'est aussi une tragédienne. C'est quelqu'un qui vit son personnage.
Ah oui, mais ça, là, je pense qu'il y a tout son problème, il est là, c'est de mélanger la scène à la vie. Il faut être totalement schizophrène quand on fait ce métier, quand on joue un rôle de salaud comme Scarpia. Je veux dire, dans la vie, il faut surtout pas l'être, parce que, alors, il y a des gens qui font des rôles de composition, d'autres qui le sont vraiment. Si on l'est vraiment, c'est très emmerdant. Quand on joue une tragédienne, quand on joue quelqu'un qui meurt pendant une heure et demie sur une scène d'opéra, il faut penser qu'on se porte bien et qu'on va en rigoler juste après. Quand on pense qu'on est mort avant même d'entrer, quand on est dépressif ou quelque chose comme, quand on a un mal de vivre, un mal-être fondamental comme l'avait Calas, tu peux être sûr que la barrière entre la vie, entre le spectacle et la vie de tous les jours, elle a sauté. Et dans ce cas-là, tu ne sais plus où tu es quand tu le fais. Et c'est exactement ce qui s'est produit pour elle.
Et Marie Callas avait effectivement ce souci de faire en permanence coller la voix au personnage. On va reprendre un extrait de l'interview diffusée sur Europe numéro 63, interview menée par Michel Glotz et réalisée dans la chambre d'hôtel de l'artiste. Écoutez, c'est plein de surprises.
Eh bien, je vais être obligé de vous présenter Madame Calas, mais je dois dire que ça me paraît un peu difficile.
J'ai peur que ça soit. Nous connaissons depuis beaucoup des années, non, Michel? Alors oui, ça vient pas.
Ça serait un petit peu difficile. On entendrait Madame Calas. Est-ce que tu penses que ça ferait un mélange un peu bizarre? Alors restons simples.
Allons-y.
Tout le monde a remarqué évidemment que la grande particularité de l'art vocal de Maria Callas, c'est avant tout le phrasé.
Pour moi, je l'ai dit souvent et je le répète aussi maintenant, que la musique est le mode plus sublime de parler. Quand on parle, on phrase, on fait les phrases, on donne de couleur à cette phrase et encore plus dans la voix. Tu comprends? Alors qu'il faut surtout phraser.
Quand tu chantes des airs français, tu attaches un poids et une signification à toutes les paroles. Par exemple, dans l'air des lettres, quand tu dis « je suis seul, comme un linceul », ta voix prend une couleur d'une tristesse et d'une...
Moi, j'adore, Michel, toujours pénétrer dans le personnage et toujours respecter le compositeur qui a créé ça. Il savait ce qu'il faisait. Il ne mettait pas les mots sur la musique si facilement. Il a fait avec tout son cœur, avec toutes ses forces de pensier et tout. Donc, nous, comme interprètes, nous devons faire au moins la moindre de fatigue de chercher dans ces génies, qui étaient ces hommes, chercher ce qu'ils voulaient.
Oui, mais ça suppose aussi d'avoir une technique vocale et d'être sans souci.
Oui, voilà, mais c'est pour ça que nous sommes toujours pleins de soucis.
C'est parce qu'il faut être sans souci.
Eh oui, mais... Si on connaît bien la voix, on est toujours en souci parce que la voix est un instrument humain et alors il souffre avec la moindre des choses.
Tu m'as dit que pour...
O resti là, va bene. Ma mandami Rosa lo stesso.
Si, tu vuoi che resti?
Oui, resta allora.
Ici, nous sommes interrompus par la femme de chambre fidèle de Maria Callas, la célèbre Bruna, qui vient lui demander un détail concernant les bagages. Et nous, nous allons en profiter pour entendre l'admirable air Casta Diva du premier acte de la Norma de Bellini, dont nous venons de tant parler.
Casta Diva, interprétation Maria Callas. Je te regarde écouter ça et bon, il y a l'émotion et puis quand même, je veux dire, il y a le côté expert qui voit qu'à tel endroit il y avait peut-être un truc qui connaît
mais c'est
pas.
C'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort en l'occurrence, parce que la musique, c'est pas un travail d'apothicaire, et si je commence à faire le compte et le décompte de ce qui va, ce qui va pas, simplement j'essayais de pas tomber dans le piège que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire une schizophrénie entre ce que j'aime et puis ce que j'entends, ce que j'écoute. C'est vrai que il y a un tout petit moment où c'est pas irréprochable, mais là, ça, c'est un très grand enregistrement de Callas. Il y a des très mauvais enregistrements de Callas. Heureusement, il vient de ressortir d'ailleurs un coffret où il y a, je sais pas combien, 70 disques de Callas et du studio. Mais il y a beaucoup de lives que vous trouvez aujourd'hui qui sont des pirates qui ont été ensuite officialisés pour faire beaucoup d'argent avec ça. Ça, c'est l'industrie Callas. Et c'est bien dommage parce que il y a des choses qui méritent pas d'être véhiculées. Mais c'est quand même très très beau ce qu'on a entendu. Donc, on oublie tout.
On a apprécié Maria Callas en France.
Oh là là, oui. D'ailleurs, si elle a fini sa vie ici, c'est pas par hasard. Hein. Non, c'est vraiment... Elle avait des vrais amis. Glotz en faisait partie, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle avait un public, elle avait des gens qui l'aimaient beaucoup. L'Opéra de Paris l'a beaucoup soutenue. Même si, d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais des problèmes qu'elle a eu avec le public. Dans les années 60, quand elle a fait un espèce de comeback un peu provoqué, elle s'en est pris aussi plein la figure. Hein.
Mais en tous les cas, quand en décembre 58, Maria Callas se produit à l'Opéra de Paris, c'est un événement. Le reportage est assuré par un homme qui deviendra lui aussi, mais dans son genre, une grande voix de la station, André Arnaud.
Madame, vous venez à l'opéra ce soir pour voir le phénomène La Callas ou bien parce que vous aimez l'opéra ?
J'aime l'opéra et j'aime beaucoup La Callas.
Je vous remercie. C'est la Bégum qui a bien voulu me donner son opinion. La Bégum plus jeune et plus charmante que jamais.
Des gardes républicains à cheval, d'autres à pied, un tapis de velours rouge sur les marches de l'opéra. Les invités arrivent par petits groupes. Les plus belles femmes de Paris passent et laissent un sillage de délicats parfums.
Bien, Beko, qu'est-ce qui vous attire ici ce soir? La voix de la Calas?
Bien sûr, évidemment.
Est-ce que vous l'aimez? Vous l'avez déjà entendu chanter?
Évidemment, bien sûr. Comme tout le monde l'entend.
Qu'est-ce que vous attendez d'elle ce soir spécialement?
Le maximum.
21h30, le président de la République arrive. La foule, malgré la pluie, reste tout autour de la place de l'Opéra, derrière les barrières qui ont été installées pour la contenir. Le président Coty descend de sa voiture. Le personnel de l'Opéra a ouvert de grands parapluies bleus pour l'escorter, mais il les refuse. Il les refuse de la main et il se dirige seul sous la pluie. Il monte les marches. Ce qui n'est pas très prudent, si le président Coty attrape un rhume ce soir, la Calas aura une fois de plus créé des ennuis à un président de la République. Très souriant, le président de la République s'est arrêté sur la terrasse de l'Opéra. Il salue la foule qui l'acclame. Sur le grand escalier, de nombreuses personnes sont là. Je vois des écharpes de députés, quelques grands croix de la Légion d'honneur, des visons, toujours des visons, et une avalanche de mousseline.
Voilà l'Opéra de Paris, décembre 58, ouais. L'arrivée de la Calas, ouais. Précédée par René Coty. Tout le cérémonial républicain est en place. C'était émouvant.
Ça m'inspire quelque chose. Quand on entend un reportage ouais. comme ça, toi et moi on sourit parce que, avec tout le respect qu'on doit à André Arnaud, incontestablement on fait plus de la radio comme ça. Bah, l'opéra c'est la même chose. On ne chante plus comme on chante, comme chantait la Calas, et pourtant on sait reconnaître quand elle, parce qu'elle chante magnifiquement bien. Malgré les 40 ou 50 ans qui séparent le moment présent du moment où elle a enregistré ce qu'on entend. Il y a une explication. C'est différent. Ça n'est pas un chant qui est toujours daté. Il l'est parfois. Mais là, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, ça ne l'est pas. L'interprétation, c'est le reflet du temps dans lequel on est. On fait pas de la radio comme on en faisait il y a 50 ans, on chante pas aujourd'hui comme il y a 50 ans. Sauf que les très grands, ils franchissent les étapes.
Alors précisément, on va écouter de nouveaux documents tirés des archives de la station pour bien se remémorer ou découvrir le caractère de cette femme, tant il transparaît dans ses propos, par exemple, quand elle décrit sa façon d'appréhender un personnage, de le posséder jusqu'à s'y identifier. Maria Callas.
C'est simple au commencement. Mm-hmm. On fait les premiers, la silhouette,
je
voilà.
Comprends.
Alors
je
de
comprends.
Là, évidemment, quand on prend un personnage, on dit qu'est-ce qu'elle est. Mm-hmm. Si elle est une femme, disons, de grand rang, alors elle a des mouvements spéciaux, mm-hmm. n'est-ce pas? Des gestes particuliers qu'une femme normale n'a pas. Mm-hmm. Alors ça c'est vite fait qu'on sait exactement ce qu'elle fait, mm-hmm. comment elle peut gesticuler, comment elle se comporte, comment elle porte le corps, comment elle va porter les costumes. Tout ça, ce sont des détails qu'on apprend petit à petit. Évidemment. Et puis, on pense à la musique. On commence à étudier strictement comme il est écrit. Puis après, on prend les mots et on commence à prendre les libertés selon le compositeur. Évidemment, c'est un travail long.
Bien sûr. Et alors, petit à petit, votre personnage...
Et petit à petit, disons, la silhouette prend mmh. la forme, elle prend ses vêtements... Puis les yeux, et le nez, la bouche, ah et puis commencent les soucis. Parce que on fait le rôle avec les mille détails, les mille couleurs. Mm-hmm. Ce n'est pas seulement les couleurs, c'est la vibration de la voix, plus ou moins selon le mot. Il y a des vibrations comme un violon. Mm-hmm. Et les vibrations aussi, selon le mot qu'on dit, doit être plus ou moins rapide, plus ou moins... Enfin, on essaye de notre mieux, mais évidemment, c'est un peu difficile. Si on commence ce travail, ça termine jamais. Mm-hmm. Et voilà le bonheur aussi du travail, que ce n'est vraiment, un rôle n'est jamais complet. Parce que chaque jour, on trouve plus.
C'est très impressionnant, parce que j'ai eu l'impression, en écoutant Maria Callas à l'instant, d'entendre quelqu'un décrire la manière de sculpter au vu d'une partition.
Mais bien sûr que c'est ça, la voix. L'interprétation, c'est ça. C'est pas exactement ça, la voix, c'est l'interprétation. Parce que là, elle parle d'interprétation, c'est comment elle va être, etc. Ceci dit, entre parenthèses, elle a tellement d'idées déjà préconçues sur le rôle qu'elle doit faire, vous imaginez les engueulades qu'elle a eues avec les metteurs en scène.
Et avec les chefs d'orchestre?
Moins à ma connaissance, mais parce qu'elle avait ses têtes et elle les choisissait, tandis qu'on choisit pas toujours un metteur en scène, même à l'époque. Hein.
C'est qui ses têtes?
Ah, ben, il y avait de grands chefs avec qui elle a travaillé, quand même. Il y a eu Séraphine, évidemment, Tullio Séraphine, et Georges Prêtre en France, qui a été vraiment quelqu'un qui a beaucoup soutenu, beaucoup épaulé celle qu'il appelle encore, il y a peu de temps, il disait Maria.
Maria. Et j'ai sous les yeux une phrase de Georges Prêtre. Elle fait partie, dit Georges Prêtre, des trois personnes auxquelles je dois beaucoup et dont je sens la présence près de moi chaque fois que je monte au pupitre.
Marc Tronchot, jusqu'à 17h.
Retour sur le plateau, dans le studio des enfants d'Europe 1, avec comme invité le directeur de la chaîne de musique classique et de jazz, Mezzo, Philippe Delacroix, pour évoquer la mémoire, le talent, le génie de Maria Callas, Callas la cantatrice, Callas également l'interprète, et on l'écoutait tout à l'heure, quand elle parlait de sa manière de posséder, d'intégrer un personnage, de le sculpter au vu d'une partition. On n'est pas loin du cinéma, et c'est d'ailleurs ce que fait remarquer Jean-Claude Brialy dans l'émission Histoire de Star qu'il consacre en 81 à la cantatrice.
Maria Callas travaillait ses rôles exactement comme l'aurait fait une comédienne. Elle a raconté elle-même comment elle abordait un personnage.
Je cherche d'abord ce que cet personnage aura fait à travers son personnage, disons, comme tempérament. Et ensuite, je dis, bon, si moi j'étais cette femme, comment j'aurais agi? Comment j'aurais fait ça? On dit, mais mon Dieu, si j'étais elle, j'aurais fait ça, et comment? Et alors on change, et on étudie toujours. Toutes les situations sont très simples, et sont exactement la même situation de la vraie vie.
Maria Callas, elle a accepté de tourner Médée.
Ah oui, là c'est pas pareil, là, c'est pas l'opéra. Hein.
Sous la direction...
C'est la pièce.
Oui. C'est la pièce.
Ah oui.
Enfin, elle tourne dedans. Elle est associée à un chef d'orchestre, j'allais dire, chef d'orchestre. Non, réalisateur.
C'est un joli lapsus.
Qui plus est
hein.
Un peu sulfureux comme Pasolini. Et le débat est lancé. Qu'est-ce qu'elle va faire dans cette galère? Et on va le lui reprocher beaucoup, d'ailleurs.
Tu sais, Visconti est l'homme qui lui a appris énormément de choses. Visconti, c'est l'homme qui lui apprend à être belle, intelligente, cultivée. Il emmène la sœur, comment dirais-je? Il va faire son éducation, hein. C'est son, on avait parlé d'histoire
c'est
d'amour.
C'est son Pygmalion. C'est son mentor.
Je dirais mentor parce que moi je pense qu'ils se sont profondément aimés. Simplement, lui n'avait pas beaucoup d'attirance, je pèse mes mots, pour les femmes, mais une chose est sûre, c'est qu'ils s'adoraient. Et on a même dit qu'ils étaient amants, mais ça paraît tout à fait improbable. Mais une chose est sûre, c'est que c'était très très important pour. Et il lui a appris incontestablement ce que c'était que les belles choses. Il lui a appris à réfléchir, à bien s'habiller. Alors, d'aucuns disent qu'il lui a fini sa carrière aussi parce qu'il lui a dit « il faut que tu sois mince ». Alors, c'est pas seulement parce qu'elle avait, elle avait flashé sur Audrey Hepburn qu'elle avait envie d'être grosse comme un haricot vert alors qu'elle faisait 95 kilos. Donc, elle a perdu 35 kilos. C'est sûr que c'est pour la voix, c'est redoutable. Et surtout pour la santé.
On va reparler à la fin de cette émission. En tous les cas, sur le thème qu'on abordait, Maria Callas va se défendre. Et ben, figurez-vous qu'elle va se défendre en 1970, notamment lors d'un journal de la mi-journée, dont elle est l'invitée, journal de la mi-journée sur Europe 1. Elle répond aux questions de Jacques Paoli.
Avec nous aujourd'hui, à notre journal, et on est bien heureux de la saluer, Maria Callas. Vous savez, Médée, Pasolini, l'opéra. Maria Callas, femme comblée, reconnue comme la plus grande chanteuse.
Vous êtes bien gentil.
C'est vrai, c'est pas moi qui l'invente, tout le monde le dit. Et pourquoi ce risque? En fait, c'est un divertissement intellectuel de Maria Callas, beaucoup plus qu'une nécessité professionnelle.
Non, monsieur,
si.
Je vous interromps, je suis une interprète, donc interpréter la musique, interpréter, un art expressif, c'est toujours faire le même travail. Au lieu de chanter, j'ai utilisé un autre moyen de m'exprimer. Donc, une interprète doit s'en servir de tous les moyens. Le cinéma est le moyen le plus beau, le plus direct et le plus moderne. Donc, il faut qu'un artiste soit récent, moderne et qu'avance ses temps. J'espère que je n'ai pas raté ça.
Vous ne l'avez sûrement pas raté, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que Maria Callas en parle en ce moment, est presque en train de condamner l'opéra.
Ah, pas du tout.
C'est moins expressif, ça a moins d'expressivité que
le
cinéma.
Oh non, ça a beaucoup plus, mais c'est un peu plus, disons, vieux théâtre, l'opéra. Une chose reste sur scène avec toute sa frivolité et sa mise en scène parce qu'on va bien habillé, c'est toute une excitation. Tandis que le cinéma, c'est beaucoup plus moderne, je vous répète encore, c'est un autre moyen d'expression, mais c'est à peu près la même chose.
Combien de fois elle a prononcé le mot moderne en l'espace de quelques temps? C'est une femme moderne?
Oui, le problème, c'est quand elle dit cela, elle a déjà arrêté de chanter. Hein. C'est en 70, elle est morte deux ans plus tard, elle a 45 ans, elle a arrêté de chanter, elle ne fait plus rien. Et c'est pour ça qu'elle fait du théâtre, parce qu'elle sait qu'elle ne peut plus chanter. Et c'est c'est dramatique ce qu'on entend, c'est formidable, c'est un document exceptionnel, j'ai jamais entendu ça. C'est exceptionnel, c'est un aveu forcé de quelqu'un qui ne peut plus faire son art et qui passait dans un autre.
Mais en dehors de ça, ça reste quand même quelqu'un de moderne. Elle a eu une vie privée, j'allais dire, d'avant-garde, d'une certaine manière, quand on voit aujourd'hui ce qu'on voit, et qu'on pense ce qu'on pense, éventuellement. Ouais. Mais, ses amours avec Onassis, c'est quelque chose de moderne à l'époque, je veux dire.
Si tu penses que le chaos est moderne, oui, mais bon, indépendamment du jugement. Sa vie sentimentale, c'est le chaos total, en fait.
D'ailleurs, ce que tu disais, je veux dire, Visconti, manifestement, oui, l'aimait beaucoup, mais ça n'était pas au-delà d'un amour peut-être intellectuel ou une affection intellectuelle. Aristote Onassis passait pour être quelqu'un qui n'aimait pas la musique. Elle faisait vraiment la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée, comme ça.
Non, mais le problème, c'est qu'on va faire de la psychologie. Moi, je suis pas du tout habilité à faire de la psychologie. Je sais qu'une chose, c'est qu'un jour, c'est qu'Onassis emmène tout ce petit monde sur le bateau d'Onassis. Onassis embarque, ouais. Qui s'appelle le Christina.
Yacht, oui.
Il embarque Churchill, sa femme, Callas, son mari Meneghini. Et pendant que Meneghini va écouter le vieux Churchill qui raconte ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, dans la cabine d'à côté, Callas se laisse séduire par Onassis. Je suis désolé, mais c'est des trucs qu'on vit à 25 ans. Quand tu le vis un peu plus tard, c'est formidable d'avoir 25 ans, très longtemps, on peut imaginer. Mais ça fait un peu plus chaotique que... Ça fait un peu fleur bleue, eau de rose, tu vois.
Mais ce qui fait fleur bleue aussi, c'est, pour les amateurs de la série Harlequin, c'est de savoir qu'il y a une représentation qui reste dans les annales, celle de la Norma, dans le théâtre antique d'Épidore. Elle voulait être à son meilleur pour que son succès soit aussi celui de Narcisse. C'est beau, ça. C'est beau comme de l'antique, comme on dirait.
Ah bah là tu mets le doigt sur exactement ce que je pense. Alors là, mais sa vie c'est une tragédie grecque, mais forcément elle a du sang grec, c'est le moins qu'on puisse dire, Madame Kalogeropoulos Callas. Mais c'est sûr que c'est une tragédie grecque sa vie, même quand elle a du succès. Elle va pas bien, c'est vraiment une tragédie grecque.
On a un petit peu parlé de son physique. C'est une très belle femme, en dehors du fait que c'est une magnifique cantatrice, que c'est une magnifique interprète. C'est aussi une très belle femme, loin de la caricature qu'on fait parfois des cantatrices qui devraient toutes ressembler à Castafiore avec une surcharge. Mais
objectivement, ce que tu dis là, c'est une période très courte de sa vie où Maria Callas est une très jolie femme. C'est pas une très jolie femme, c'est une femme qui est superbement habillée, superbement maquillée. C'est ça le spectacle. Le spectacle, c'est faire une apparence. C'est très bien comme ça. Mais pardon, les photos d'elle, au réveil le matin, il n'y en a pas 36 parce que justement, elle les a détruites.
Et donc, il y a eu des régimes minceurs?
Mais il n'y a eu que ça, c'est ça son problème. Son problème, c'est de se battre contre son corps, se battre contre ses amants, les gens qui la délaissent, de ne pas être contente du succès, de penser quand elle a du succès que c'est un peu sujet à caution, quand elle se fait sortir, de penser que la terre entière lui en veut. Son problème, c'est le malaise. Mais c'est vrai aussi avec son corps. Elle est très belle, elle a un regard intéressant, mais objectivement, elle a un visage... Son regard est très troublant, ça c'est vrai. C'est un regard de tragédienne, un regard qui te pénètre. Mais objectivement, en tant que femme aujourd'hui, elle n'aurait pas un succès fou.
Un jour, un indélicat lui pose indirectement la question de son poids. Voilà la réponse.
J'ai toujours fait ce qu'il me semblait juste de faire pour l'art. Parce que nous sommes peu de choses avec cet art qui est tellement grand. Et je ne suis pas du tout... J'aurais fait de nouveau tout ce que j'ai fait, j'aurais fait.
Alors, il y a des gens qui ont dit, oui, mais Maria Callas s'est fait maigrir.
Pardon, alors maintenant, je vous interromps. Parce que cette histoire, il est temps qu'on démentit cette histoire. Là, vous avez passé tous mes enregistrements. Et si vous prenez la chronologie de ça, j'ai commencé avec, les enregistrements. Très peu j'ai fait que j'étais grosse. J'ai fait la Traviata que j'ai commencé, j'avais déjà perdu 10 kilos, à peu près. Et alors j'avais fait la première Gioconda, seulement la première Gioconda que j'étais grosse. La Lucia, j'étais sur le chemin de maigrir. Mes enregistrements, et les meilleurs, ont été faits quand j'étais maigre. Mais même maigre, je dis.
Oui, pas mince, maigre.
Maigre. Parce que j'étais plus mince dans le temps. J'étais devenue trop maigre. Évidemment, je travaillais beaucoup. Et ça a déclenché une espèce de... Je ne sais pas, je ne pouvais plus grossir.
Donc, il n'est pas question pour que l'on vous dise...
Non,
il n'y a pas. Ma voix a été altérée par
j'ai
le fait que...
J'ai fait les meilleurs succès. La Lucia, la Sonnambula, évidemment, les Médée, les Anna Bolena. J'étais maigre comme un clou.
Là encore, c'est le personnage qui dicte sa loi. Voilà la réponse de Maria Callas. Elle a maigri quand il fallait maigrir, et elle était grosse quand il fallait être grosse, parce que le personnage l'imposait.
Je peux te dire que je ne crois pas un traître mot de ce que je viens d'entendre. Mais ça n'a aucune importance, c'est presque charmant de vouloir s'inventer sa propre légende. C'est exactement son problème, et je ne crois pas un traître mot de ce qu'elle vient de dire. Mais ça n'a aucune importance. Objectivement, ça n'enlève rien pour moi à son génie, à son talent, et comment dirais-je, au fait qu'on soit subjugué par sa voix. Mais je ne crois pas un mot de ce que j'ai entendu.
Le personnage ne dicte pas tout. Alors il y a l'actrice, il y a la femme aussi derrière l'actrice et la cantatrice. La femme qui est soucieuse de son rang de... prima donna, expression qu'elle préférait au mot de diva. Écoutez.
La prima donna est une chose dont je suis très fière. Parce que être prima donna veut dire que tu es à la hauteur de ta mission. Que tu fais bien ton rôle. Qu'est-ce que ça veut dire prima donna? Est-ce que vous savez bien? Parce qu'on dit diva. Mais on a raté le vrai sens de du mot. Prima donna, c'est comme jeune première, non?
Débutante?
Non. C'est le premier rôle de l'opéra ou de la pièce. Prima donna, la première femme. Donc, ça se classifie, disons, Medea ou Traviata. C'est la prima donna, ça veut dire la Violetta ou la Medea ou la Norma. La première femme de la compagnie, le premier rôle. Et alors, il y a de quoi être orgueilleux d'avoir réussi ça. Évidemment, si tu t'habilles bien, et si tu te présentes bien, alors encore mieux, tu es dans ton rôle, parce que tu es obligé à être bien habillé, bien aussi, c'est pour ça que je condamne les femmes chanteuses ou chanteurs qui sont gros, je le condamne très, parce que j'y étais dans le temps, et croyez-moi, j'étais pas bien du tout. Et j'ai maigri, et je l'aurais fait encore, parce que le public va voir une belle femme, ou disons la Traviata. La première de Traviata a perdu, a été un fiasco à Venise, à cause d'une prima donna qui était trop grosse dans le temps. C'était un devoir, c'est un devoir que tu ressembles à ce que, à peu près, tu devrais être. Une belle femme ne peut pas être une énorme, c'est pas l'exhibition vocale que compte.
Il faut ressembler à ce qu'on devrait être.
Oui, c'est l'idéal, évidemment. Alors, quand aujourd'hui on a la chance d'avoir sur une scène d'opéra, et on en a, parce que les Russes ne font pas que de jolies tennis women, ils ont aussi des prima donna qui sont quand même à faire pendre la langue à tous les mecs qui passent comme ça dans la rue, c'est agréable. Mais il y a aussi des chanteuses qui sont un peu fortes. Je pèse mes mots.
On a encensé, on a idéalisé peut-être un peu trop Maria Callas.
Bien sûr que oui, ouais. Mais bien sûr que non, ça fait tellement plaisir. Pourquoi est-ce qu'on se priverait? On a besoin de ça. Moi, j'adore le spectacle, la musique, l'opéra, c'est du spectacle. On a besoin de rêves, on a besoin de ça, c'est formidable. Le mythe, ça en fait partie. Il y a un mythe Callas, c'est un météore, une météorite dans l'histoire du chant. Elle a arrêté de chanter extrêmement tôt, elle est morte extrêmement tôt, la pauvre. Elle est morte à 47 ans, elle était morte et enterrée, ce qui est terrifiant quand même. Elle s'arrête de chanter à 40 ans. Aujourd'hui, à 40 ans, les gens peuvent vraiment continuer à faire carrière, les femmes partent singulièrement. Donc, il y a vraiment... c'est une époque. Mais ceci dit, ce qu'elle vient de dire est quand même une intuition de la modernité. Ça, c'est vraiment important. Mais elle le dit, je pense, assez tardivement dans sa vie.
Il y a une chose que j'ai relevée dans ce qu'écrivait Georges Prêtre quand il lui a rendu hommage dans le Figaro, un article intitulé « Maria, tigresse et gamine ». Il mentionnait le fait que ses yeux l'avaient beaucoup fait souffrir.
Elle
était myope.
Elle est tombée. Oui. Elle est tombée plusieurs fois en scène à cause de ça. Voyait plus rien du tout.
Ce que je vais vous faire entendre, vous l'avez forcément jamais entendu, vous les auditeurs, et peut-être que toi, Philippe, non plus. C'est toujours Michel Loss, l'ami devenu agent artistique, qui raconte.
Elle était pratiquement aveugle, pas aveugle, à marcher avec une canne blanche, mais aveugle d'une myopie absolument inouïe, enfin, incroyable. Elle n'a jamais vu de sa vie le bâton d'un chef d'orchestre, jamais. De sorte que c'est une des explications de sa connaissance tellement intime des partitions. C'est parce qu'elle n'a jamais pu de sa vie entière compter sur un départ d'un chef d'orchestre. C'est elle qui pratiquement devait parfaitement entendre l'orchestre, même si c'était pianissimo. Et quel que soit le jeu de scène, elle pouvait tourner le dos au public. Elle a d'ailleurs été la première tragédienne lyrique à tourner le dos au public pour les besoins de l'action ou pour les besoins de la tragédie. Elle était donc parfaitement aveugle en scène. Elle ne voyait rien. Et elle a commencé à porter, par coquetterie dans la vie, car elle était fort coquette, des lunettes, des verres de contact. Et un jour, elle a tout simplement oublié d'enlever ses verres de contact pour la scène. Et subitement, elle a vu. Elle a vu les meubles qu'elle n'avait jamais vus sur la scène. Elle a vu les décors. Elle a vu la tête de ses partenaires. Elle a vu le chef d'orchestre. Elle a entreaperçu le public. Et elle est devenue à moitié folle. Elle ne pouvait pas abréger l'opéra. Mais elle a attendu la fin de la première scène de Tosca pour enlever dans les coulisses ses verres de contact. Parce que littéralement, elle a eu l'impression qu'elle ne pourrait pas continuer la représentation.
Extraordinaire. Ah, si l'histoire est vraie, elle est incroyable. Ça confirme ce qu'on disait, c'est une femme qui ne veut pas voir le monde.
C'est un très proche qui le raconte.
Bien sûr, mais ça confirme ce qu'on disait en début d'émission, à savoir que c'est une femme qui avait beaucoup de mal à faire la différence entre le spectacle et la vie. Et tout son problème est là. Là, c'est extraordinaire, ça veut dire qu'elle n'était plus que dans le spectacle. C'est-à-dire qu'elle ne voulait surtout plus voir rien d'autre qu'elle-même. Et ses proches partenaires en forme un peu floue, comment dirais-je, comme voient les myopes, quoi. Donc c'est assez assez impressionnant ce qu'il dit là, Glotz. Hein.
Mmh. Il y a un rapport entre la Castafiore et Maria Callas. Il y a quelqu'un qui a fait une thèse quasiment là-dessus, pour ne pas dire un bouquin.
Mais une Castafiore, c'est quoi? C'est simplement une grosse dame chantant n'importe quoi avec une crinière de coq et un habit invraisemblable dans Tintin.
Et un perroquet pas loin, oui.
Oui, mais 1 milliard de 1 000 sabords. Et incontestablement, une chanteuse, ça peut être ça. Mais heureusement, croyez-moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Si c'était que ça, il y a longtemps que j'aurais arrêté.
Alors précisément, ouais. Philippe, quand on aime la musique au point d'en avoir fait son métier comme toi, t'as organisé des concerts, des festivals, tu diriges aujourd'hui une chaîne de télé dont la musique est la raison d'être et la vocation. Quand on est tous là, que représente Maria Callas aujourd'hui?
C'est un mythe fondateur. Bien sûr, c'est une icône, c'est un mythe fondateur. C'est certainement une des premières grandes artistes femmes dont on a l'enregistrement. Il y a une très belle phrase d'Yves Saint-Laurent que je viens de découvrir. Objectivement, je la connaissais pas, je la trouve superbe. C'est Yves Saint-Laurent, donc le grand couturier, aussi un homme remarquablement intelligent, qui disait « Les dieux s'ennuyaient, ils ont rappelé leur voix ». Ben, c'est ça. C'est ça, c'est une voix irréelle qui nous emmène dans un univers incroyable. Chacun y trouve ce qu'il veut. C'est ça la liberté aussi de celui qui entend. Et puis, c'est la magie de la musique, de cette vibration d'une voix comme ça qui vraiment vous parcourt de la tête aux pieds et puis qui vous file le frisson. Il n'y a pas de doute, quoi. C'est le talent. On peut pas enlever ça. C'est le don, c'est le talent, c'est le génie, c'est formidable.
Il y a des successeurs, il y a des héritiers, il y a des classiques de demain.
Bien sûr que oui, bien sûr que oui. S'il s'agit de parler d'une très grande voix aujourd'hui, pour moi, la voix vraiment, avec des similitudes troublantes, mais à la manière d'aujourd'hui. Elle n'a jamais cherché à la copier, je le précise, je le sais, parce que j'en ai causé avec elle. C'est Angela Georgiou, qui est une des plus grandes sopranes qu'on puisse entendre aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Qui est toujours la femme de Roberto Alagna.
C'est la femme de Roberto Alagna, absolument.
De belles voix ensemble.
Bien sûr. Et ce que je vous dis là, il n'y a pas que moi qui le dis. Je me souviens d'une question devant moi posée par un passionné d'opéra, à Nathalie Dessay, qui est aussi une énorme voix, mais qui a un registre évidemment beaucoup plus étriqué, qui est un registre de très haut de la voix, qui est sublime, sublime voix de Nathalie Dessay. Elle a répondu, quand on lui a dit qu'elle est la plus grande soprane aujourd'hui, elle a répondu, évidemment, Angela Georgiou. Donc bien sûr, il y a la succession. L'opéra, c'est une histoire qui s'arrête pas. Ça continue aujourd'hui. Venez-y, vous verrez, c'est formidable. Et c'est surtout beaucoup moins cher que tout ce qu'on dit. Voilà.
Merci Philippe. J'étais ravi de t'accueillir dans le studio des Enfants d'Europe 1.
Merci.
Tu mérites ce label 1000 fois. Et à très vite. Merci aussi à vous tous derrière le poste, l'écran, le lecteur MP3 ou tout ce que vous voulez. Merci de nous être fidèles.
Et la soirée, surtout ce soir, ne ratez pas le magnifique documentaire consacré à la Callas à 20h45 sur Mezzo. C'est formidable. Rediffusé, bien entendu. Voilà.
Que des rendez-vous. En ce qui nous concerne, rendez-vous dimanche prochain pour un 16-17. Vous allez en prendre l'habitude. Et d'ici là, bonne fin de journée, bonne semaine. Et comme je vous dis toujours, excellente radio.